Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Et nous prenons l'antenne, vous l'entendiez, alors que tout est prêt pour l'hommage populaire qui doit être rendu à Jacques Chirac aux Invalides. Et s'il existait de Jacques Chirac à Emmanuel Macron quelque chose comme, je cite, « un fil invisible entre deux mondes qu'a priori tout sépare ». C'est ce qu'on pouvait lire hier dans le journal Le Monde. Et qui de mieux pour répondre à cette question qu'une fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron? Elle était à ses côtés dans la conquête du pouvoir. Elle est aujourd'hui la porte-parole du gouvernement. Sibeth Ndiaye est l'invitée de Questions Politiques ce dimanche. Beaucoup de questions d'actualité à lui poser. Sa parole est très attendue et notamment pour répondre à l'inquiétude des habitants de Rouen et de sa région après l'incendie monstre de l'usine chimique Lubrizol. Elle s'est installée dans notre studio pour intervenir l'application France Inter ou les réseaux avec le hashtag Question Paul.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Sibeth Ndiaye.
Bonjour.
Pour vous interroger, l'équipe de questions politiques, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Solène Deroyer, grand reporter au service politique du journal Le Monde et qu'on a le bonheur d'accueillir dans l'émission. Bonjour Solène.
Bonjour Ali, bonjour Sibeth.
Et bienvenue, c'est vous que je citais quand j'évoquais ce fil invisible entre Jacques Chirac et Emmanuel Macron et on va en parler dans un instant. Karine Bécard de France Inter, bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Elle a préparé votre portrait Sibeth Ndiaye et nous le découvrirons ensemble dans quelques minutes. Partons d'abord de cet hommage national populaire. On a vu à l'image quelques dizaines de personnes qui sont déjà prêtes devant les Invalides à se recueillir et à aller saluer l'ancien président de la République. Jacques Chirac avait dit un jour qu'on avait tous en nous quelque chose de Johnny. Il remettait la Légion d'honneur à Johnny Hallyday. Est-ce qu'on peut retourner la formule et dire aujourd'hui qu'on a tous quelque chose en nous de Jacques Chirac? Est-ce que vous diriez ça?
Je crois qu'en tout cas, on a tous en nous quelque chose de l'époque de Jacques Chirac. Parce que le moment où Jacques Chirac est président de la République, c'est un moment où on n'a pas de smartphone, c'est un moment où les réseaux sociaux n'existent pas, c'est un moment où finalement, le monde n'est pas celui qu'il est aujourd'hui. Et je pense que quelque part en nous, et moi qui suis quadragénaire, je conserve...
Pas encore, dans deux mois. Ne vous vieillissez pas.
Mais je conserve aussi quelque chose de Jacques Chirac.
Alors quoi?
En fait, moi, j'ai adhéré au Parti Socialiste en 2002 et j'y ai adhéré parce que le 21 avril, Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour de l'élection présidentielle. Et ce traumatisme-là, c'est celui de ma première manifestation, puisque le soir où, sur l'écran de France 2, en l'occurrence, je vois apparaître le visage de Jean-Marie Le Pen, alors que pour moi, c'était une évidence que ça allait être Jospin. J'étais très jeune militante à l'époque.
Vous n'étiez pas la seule à le penser.
Je n'étais manifestement pas la seule à le penser. Et en fait, ce moment est un moment de stupéfaction et aussi un moment de peur.
Mais c'est assez loin, ça, de Jacques Chirac. Qu'est-ce que vous retenez, en fait,
ce que je retiens de lui à ce moment-là, parce qu'avec mes yeux de jeune militante, c'est que c'est le seul qui peut empêcher que Jean-Marie Le Pen arrive au pouvoir. C'est à la fois un déchirement, parce que ça veut dire qu'il faut renoncer à ce en quoi je croyais à ce moment-là, à l'arrivée de Lionel Jospin à la présidence de la République. Et en même temps, il a des mots qui, dans mon souvenir, sont des mots qui rendent possible le fait de voter pour lui. Après, ce qu'il a fait de son mandat, c'est autre chose.
Alors justement, quand Emmanuel Macron dit en gros qu'il faut réformer aujourd'hui parce que rien n'a été fait pendant 30 ans, est-ce qu'il ne cible pas et qu'il ne vise pas directement, eh bien notamment les mandats de Jacques Chirac et l'occasion peut-être inespérée qu'il avait de... en 2002. Donc est-ce que finalement on l'aime bien parce qu'il était sympathique?
C'est difficile de revenir en arrière et de dire on aurait dû faire comme ci ou comme ça. Moi, ma conviction politique, c'est que sans doute il y a eu des moments où on a manqué de courage politique. Il y a eu aussi des moments où on s'est trompé politiquement sous Jacques Chirac. Moi, j'ai été parmi ceux qui ont manifesté contre le contrat première embauche, qui était ce contrat finalement qui faisait des jeunes des travailleurs à part. Et donc ça, je m'y étais refusée, j'avais manifesté à l'époque. Et donc oui, il y a eu sans doute des occasions manquées. Puis il y a eu des moment où il a été profondément au rendez-vous de l'histoire de notre pays, et je pense en particulier à la guerre en Irak.
Solène Deroyer.
C'est-à-dire que depuis jeudi, les hommages très unanimes se multiplient autour de Jacques Chirac, alors que sa présidence et son bilan surtout ont été très critiqués. Que dit cet engouement? Est-ce que cet engouement vous paraît suspect? Est-ce qu'il y aurait une forme de mélancolie française?
Eh bien, je crois que c'est finalement pas mal vu de parler de mélancolie. C'est pour ça que je parlais de deux mondes très différents l'un de l'autre. Et ce qu'on a connu au début des années 2000, ça n'est plus du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, je crois véritablement qu'il y a chez nos concitoyens à la fois... une manière de colorer un peu en rose le passé. On a toujours,
comme toujours,
on a toujours cette manière un peu de nostalgie vis-à-vis des hommes politiques passés. Il y en a qui ont été beaucoup décriés et réhabilités au moment de leur mort. Ça n'est pas le cas de Jacques Chirac, parce qu'il était très aimé des Français quand il était aussi en fonction. Je pense que Jacques Chirac, c'est aussi quelqu'un qui, à travers sa personnalité, est un personnage profondément français. Moi, quand j'étais petite, avant de venir vivre en France, quand on parlait de Jacques Chirac ou de François Mitterrand à la maison, c'était des personnages français. Ils avaient cette incarnation de la nation française. Alors, Jacques Chirac, plutôt une incarnation populaire, parce que on mangeait des pommes, parce que c'était super menteur à la télévision et ça faisait bien rigoler dans les guignols, parce que c'était aussi celui qui était le vrai franchouillard. On l'aurait très volontiers vu avec sa baguette sous bras.
Vu du Sénégal,
c'était le vrai Français, celui qui aimait la bonne chair, qui aimait le bon vin, qui était galant avec les femmes. Et ça, c'était l'imaginaire français. Et je crois qu'il a su parfaitement incarner ce qu'était la France.
Est-ce que vous diriez que le nouveau monde aujourd'hui, Sibène Diaye, que le nouveau monde aujourd'hui pleure d'une certaine manière l'ancien monde?
Je dirais que à chaque époque de notre vie, de notre histoire, il y a toujours une forme de nostalgie, une forme de c'était mieux avant. Mais c'était pas toujours mieux avant. Aujourd'hui, les technologies, la transition numérique, la prise de conscience écologique, c'est mieux aujourd'hui que ça ne l'était avant.
Vous ne regrettez pas l'époque où on pouvait fumer dans les lieux publics, manger gras et se comporter absolument
rouler vite en voiture, mettre les mains aux fesses des femmes en toute impunité. Non, je le regrette pas, non.
Nostalgique.
Est-ce que vous voyez des points communs entre Jacques Chirac et Emmanuel Macron ?
Je pense que tous les deux, et c'est sans doute le fil qui est tendu et tressé entre tous les présidents de la République qui ont honoré la Ve République, il y a cette attention très profonde portée au pays et portée aux Français. Je crois que ça, c'est quelque chose que vous avez en vous quand vous accédez à ces fonctions-là. Et oui, en ça, il y a des points communs, évidemment.
Et c'était assez frappant d'entendre le président de la République, au cours de son allocution de jeudi soir, marquer cette filiation en lisant le papier de Solène Deroyer dans Le Monde. C'était hier, sur ce lien, sur ce fil invisible entre deux mondes. On découvre qu'à peine élu, Emmanuel Macron s'est rendu au domicile de Jacques Chirac et que Jacques Chirac a offert à Emmanuel Macron un portrait en bronze du général de Gaulle et que ce portrait n'avait jamais quitté Jacques Chirac. Il était sur son bureau à la mairie de Paris, il était sur son bureau à l'Élysée et Emmanuel Macron lui avait promis de poser ce portrait du général sur son bureau et il l'a fait. Et jeudi soir, lorsqu'on regardait l'allocution du président de la République en hommage à Jacques Chirac, le cadre était posé devant lui sur le bureau. Ça explique, alors de manière anecdotique, mais qui dit au fond quelque chose, ce lien, cette relation entre deux présidents qui a priori ne se connaissaient pas et n'avaient rien en commun.
Eh bien, écoutez, d'abord, ça dit beaucoup, ça dit beaucoup des deux présidents. Ça dit beaucoup de Jacques Chirac, qui a considéré sans doute au soir de sa vie qu'il y avait quelque chose à transmettre. Lui-même l'avait reçu de Pompidou, ce portrait, et donc il était en quelque sorte dans une forme de transmission vis-à-vis d'Emmanuel Macron en tant que nouveau président de la République. Ça dit aussi beaucoup d'Emmanuel Macron parce que c'est pas un hasard s'il a tenu à rencontrer chacun de ses prédécesseurs encore vivants. Il l'a fait pour Jacques Chirac dès l'été 2017, pour Valéry Giscard d'Estaing, pour Nicolas Sarkozy, évidemment pour François Hollande le jour de la passation de pouvoir.
Mais
pour autant, Sibeth Diaye, il y a, en tout cas en apparence, assez peu de choses en commun entre les deux présidents. Jacques Chirac, on l'a un peu dit tout à l'heure, c'était un peu une incarnation du chimiquement pur, en tout cas de l'ancien monde. Ce contre quoi Emmanuel Macron s'est battu, s'oppose en rupture depuis le début de son quinquennat. L'un a gravi tous les échelons de la vie politique française, a connu des victoires mais aussi des défaites, considéré que la politique était un métier. Ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Chirac, c'est aussi l'enracinement, c'est aussi l'attachement au terroir, tandis que Emmanuel Macron est arrivé sur la scène un peu ex nihilo. Vous parliez de deux époques, c'est aussi deux visions radicalement différentes de la politique, de la manière de faire de la politique.
Moi, je crois qu'ils incarnent ce qu'a été l'évolution de notre société. Jacques Chirac, il était là dans un monde où la droite et la gauche voulaient encore dire quelque chose. Emmanuel Macron, quand il fait irruption, en quelque sorte, sur la scène politique française, on est dans un moment où il y a des questionnements très forts sur ce qu'est la gauche historique et ce qu'est la droite historique. Quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, il hérite, en quelque sorte, du monde qu'a décrit Jacques Chirac quand il a parlé de la maison qui brûlait. Et lui, il est en plein dans ce qu'est la transition écologique, dans la manière dont on doit l'opérer. Jacques Chirac faisait partie...
Il a repris ses mots, d'ailleurs.
Oui, bien sûr, il a repris ses mots. Mais Jacques Chirac faisait partie de la génération qui dénonçait des faits. Et nous, nous sommes dans la génération qui doit agir pour pouvoir répondre à ce qui est en train de se passer en matière de transition.
Une certaine forme de, d'inaction et dans les périodes précédentes. C'est ce que vous dites en disant on a dénoncé et nous, on est obligés de faire.
Il y a un peu de ça, oui.
Question subsidiaire. Est-ce que chez les Français, il n'y a pas ce côté Chirac qui est... On est d'accord pour réformer, mais finalement, dès qu'on commence à réformer, on n'en veut plus.
Je pense que c'est pas particulier à la présidence de Jacques Chirac. Je pense que nous aussi, aujourd'hui, dans l'exercice que nous avons du pouvoir, nous sommes aussi confrontés au fait qu'il y a dans la population française des injonctions contradictoires. On nous dit il faut aller plus vite et plus loin dans la transition écologique, mais en même temps, c'est difficile d'accepter dans son quotidien les changements que cela implique jour après jour. Et donc, on voit bien qu'il y a cette tension-là. Et ce qui fait l'honneur de la politique, c'est justement d'essayer de résoudre ces tensions-là.
Mais on se rend compte que finalement, le propos que vous avez tenu au début de « il y a l'ancien monde, et puis nous, on va incarner quelque chose de différent, de neuf, de nouveau », cet ancien monde, là, tout d'un coup, vous commencez à avoir du mal à l'assumer. Est-ce que vous êtes allé trop vite quand vous avez dénoncé ce monde-là ?
Non, je crois pas du tout. Je pense que notre pays avait besoin d'un moment de rupture. Et cette rupture-là, finalement, je crois que les dirigeants politiques y étaient moins prêts que ne l'étaient les Français eux-mêmes. Parce que eux-mêmes étaient très conscients du fait qu'il y avait une forme de basculement dans le monde et que ce basculement devait s'opérer à ce moment-là. Et finalement, Emmanuel Macron, la majorité que nous incarnons aujourd'hui, est arrivée au bon moment dans une attente qu'avaient les Français vis-à-vis d'un changement radical.
Et on va parler évidemment tout à l'heure de la manière dont vous voulez répondre à cette demande des Français. Dans l'actualité aussi, Sibeth Ndiaye, il y a les suites de cet incendie spectaculaire de l'usine Lubrizol près de Rouen et de sa région. Pas de victimes, mais un accident industriel qui n'en finit pas de susciter l'inquiétude de la population. Plusieurs ministres se sont rendus sur place, notamment la ministre de la Santé. Dès jeudi, Christophe Castaner déclarait que la situation était maîtrisée, qu'il n'y avait pas de risque avéré pour la population. Hier, le préfet de Seine-Maritime disait que nous étions à un état habituel de la qualité de l'air à Rouen. Et pourtant, on accuse le gouvernement de tenir des propos rassurants, mais qui finalement travestissent les faits et la vérité. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude qui persiste parmi la population ?
C'est un événement qui a été extrêmement traumatisant, ce panache de fumée noire, les sirènes tôt le matin qui retentissent. Évidemment, c'est extrêmement traumatisant. Et moi, je comprends parfaitement, y compris en tant que mère de famille, ce que ça représente quand vous vous levez le matin, que vous avez cette odeur manifestement détestable qui envahit vos narines, que vous vous posez des questions parce que vos enfants sont en train de tousser. Et donc, c'est très angoissant, c'est extrêmement traumatisant. Ce que nous avons voulu faire depuis le départ, c'est d'abord avoir une réaction d'urgence. Donc on a fait en sorte qu'il y ait les pompiers, le matériel nécessaire, toute la protection et la sécurité civile qui puissent se mettre en ordre de marche pour circonscrire l'incendie, ce qui a été réalisé dans les 12 heures à peu près qui ont suivi
le début. Oui, presque une journée entière pour l'éteindre sans risque de reprise.
Le début du sinistre. Après, on a essayé d'avoir une deuxième chose, c'est d'être dans le principe de précaution. Avant même qu'on ait pu avoir le résultat des premières analyses, le préfet, localement, a ordonné la fermeture des écoles et des crèches. Parce que dans l'incertitude, dans le doute, il valait mieux mettre en protection ceux qui étaient les plus fragiles. C'est ce qu'on a souhaité faire. Et le confinement des maisons de retraite.
Est-ce qu'il ne fallait pas confiner tout le monde, en fait ? Est-ce qu'il n'y a pas eu... Il n'y a pas de mesures d'ampleur qui ont été prises au final.
Alors que la catastrophe est majeure. Un territoire avec plus d'une centaine de communes, l'ensemble des écoles, si c'est des mesures qui sont importantes. Après, on a, au fur et à mesure que nous avons eu des résultats d'analyse, nous les avons communiqués. Le préfet de Seine-Maritime, je crois, a fait 4 ou 5 conférences de presse dans un temps extrêmement rapproché pour tenir systématiquement informer les populations de ce qui était de ce qui était scientifiquement analysé.
Mais sans calmer les doutes.
Et alors, Je pense que d'abord, on est dans une société où, le doute est consubstantiel au rapport désormais qu'ont nos concitoyens à la parole publique. On peut le regretter, mais aujourd'hui, on est régulièrement remis en cause quand vous avez toutes les études de perception
sur... Enfin, quand on voit de la suie dans les abreuvoirs, quand on voit des oiseaux morts...
Mais c'est pour ça, de la même manière que quand vous avez une marée noire, vous avez des gouttes d'hydrocarbures, vous avez des plaques d'hydrocarbures sur les plages, et donc on donne aux gens les éléments de précaution à prendre. Quand on a décidé de confiner en accord avec le monde agricole, de confiner les bêtes, de faire en sorte que les produits qu'elles produisaient, le lait, les œufs, ne soient pas consommés en attendant d'avoir des résultats des analyses sanitaires, c'est bien qu'on met en œuvre parfaitement le principe de précaution et qu'on est dans la transparence systématique et quotidienne.
Avez-vous cet engagement absolu de transparence pour l'avenir? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont inquiets en se disant les récoltes, est-ce que si on se découvre que dans 6 mois, les choses qui poussent sont contaminées? Est-ce que vous avez un engagement? Est-ce que vous vous engagez en tant que gouvernant et en donnant un certain nombre de consignes au préfet à ce que la transparence soit totale et que régulièrement toutes les résultats d'analyse soient communiqués à la population?
Moi, je pense que c'est extrêmement important que cette transparence perdure, qu'elle existe maintenant au moment où on est dans la phase aiguë, en quelque sorte, de la crise, mais aussi que pour l'avenir, il puisse y avoir des comptes rendus réguliers au niveau du préfet de ce qu'est l'évolution de la situation, y compris parce que si on détecte à un moment donné qu'il y a une pollution, parce qu'aujourd'hui, vous avez des produits polluants qui sont sur le site où l'incendie a eu lieu. Donc, on va faire venir, on a demandé à l'entreprise de faire intervenir des entreprises de dépollution. Mais au cas où il y aurait une pollution, il faut qu'on soit en capacité de réagir d'un point de vue sanitaire. Et donc, il faut qu'on puisse informer les gens de ce qui se passe, évidemment.
Solène Doyer.
Des députés de gauche réclament une commission d'enquête parlementaire sur l'incendie. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne idée ?
Alors moi, à ce stade, je peux pas apporter de réponse parce que on a d'abord une enquête administrative qui va être là lancée dans l'immédiat. Je crois savoir qu'un certain nombre de plaintes ont été déposées qui vont déclencher des enquêtes judiciaires sans doute.
Le parquet a élargi l'enquête à la mise en danger de la vie d'autrui hier.
Je pense que c'est important que tous ceux qui sont susceptibles d'apporter des éclairages sur cet accident puissent avoir la parole à travers ces enquêtes, y compris que des gens puissent se porter partie civile, parce que c'est important que chacun sache ce qu'il en est exactement, et y compris pour le gouvernement. Parce que peut-être devrons-nous en tirer des enseignements, je ne sais pas, sur la manière dont on gère aujourd'hui ces fameux sites classés Céveso. Peut-être y a-t-il des réflexions à avoir, parce que bien souvent, on a des sites qui préexistaient à un entourage urbain. C'est un peu le même genre de problématique qu'on a, par exemple, sur l'épandage des pesticides. Parce que très souvent, les champs, ils ont existé avant les lotissements pavillonnaires. Et donc, on a cette tension-là à résoudre. On doit se questionner dessus. Et quand on a des incidents dramatiques de cette nature, c'est le moment de se poser des questions, évidemment.
La comparaison avec l'explosion d'AZF à Toulouse en 2001 vous paraît pertinente ou c'est exagéré ?
Je crois que c'est trop tôt pour pouvoir établir des comparaisons avec des accidents similaires qui ont eu lieu dans notre histoire. Moi, j'ai pas la compétence pour vous dire si oui ou non, en termes d'ampleur et puis en termes de raisons qui amènent à cet accident. On est dans la même situation qu'AZF, donc je me garderai bien de faire des commentaires et je fais confiance à la justice et aux services enquêteurs pour nous donner tous les éclaircissements là-dessus.
Les agriculteurs de la région s'inquiètent de pertes financières. Est-ce qu'ils seront compensés ?
Eh bien, il faut voir les circonstances et l'attribution de la responsabilité. Évidemment, là où il y a des mécanismes qui existent et qui permettent de venir en aide aux agriculteurs, on le fera et on activera ce qui est nécessaire. Après, la responsabilité, il faut pouvoir la déterminer pour savoir qui doit les dédommager, évidemment.
Il est 12h22, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, est l'invité de Questions Politiques ce dimanche.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Votre portrait, Sibeth Ndiaye, signé Karine Bécard.
Vous aviez à peine 16 ans quand Jacques Chirac a été élu pour la première fois président. Vous étiez, Sibeth Ndiaye, en train de quitter le Sénégal pour vous installer en France et vous étiez loin d'imaginer ce qui allait se passer 7 ans après Jean-Marie Le Pen se qualifie pour le second tour de l'élection présidentielle. Vous êtes éprouvé, vous êtes écœuré, vous l'avez dit tout à l'heure, et vous décidez d'aller au PS et de vous encarter. Sauf qu'en réalité, la politique, vous en connaissez tous les codes depuis que vous êtes toute petite. Vous avez vu défiler chez vos parents des chefs de parti et des ministres de premier plan. Mais vous, ce qui est intéressant, ou plutôt ce qui est surprenant, c'est que vous avez avancé tout en restant toujours caché. Caché derrière Claude Bartolone pour commencer, caché derrière Arnaud Montebourg pour continuer, et caché derrière Emmanuel Macron qui vous a emporté jusqu'à l'Élysée. Donc vous avez été longtemps, Sibeth Ndiaye, une femme de l'ombre, jusqu'à ce que vous soyez nommée brusquement porte-parole du gouvernement.
Soyez-en sûre, hier, le doute m'a submergée lorsque j'ai vu la marche se dresser devant moi. La France m'a beaucoup donné. Aujourd'hui, c'est à mon tour de le lui rendre.
C'était il y a presque 6 mois. Votre propos est empreint de solennité. Et il faut dire qu'il tranche avec la familiarité des échanges que vous avez tenus parfois en coulisses à l'Élysée. À l'époque, les journalistes se sont souvent sentis bousculés. Et surtout, la communication du président s'est avérée passablement verrouillée. Aujourd'hui, en tant que porte-parole, rien dans votre méthode n'a fondamentalement changé. Si vous affichez un autre style, une manière de distiller de l'originalité dans un cadre tellement formaté. Mais comme toujours, Sibeth Ndiaye, vous êtes là, engagé, vous tenez, jamais vous ne céderez, jamais vous ne reculerez, parce que depuis toujours, vous êtes avec les gens que vous servez d'une parfaite loyauté, un bon petit soldat prêt à s'oublier.
Réaction, Sibeth Ndiaye.
C'est toujours difficile de réagir quand on parle de vous. Ce qui est notable, je crois, dans ce que vous avez dit de moi, c'est le fait que j'ai toujours préféré l'ombre à la lumière et que ça a été...
Bravo, en tout cas, vous avez vraiment, vraiment continué de poursuivre cette voie-là.
C'est un vrai questionnement. Le jour où il m'a été proposé de devenir ministre, ça a été un vrai questionnement, ce basculement de l'ombre à la lumière, parce que j'avais suffisamment côtoyé de personnalités publiques pour être parfaitement consciente du prix qu'il y avait à en payer, tout en ayant aussi tout à fait conscience de l'exaltation qu'on a à pouvoir de cette manière-là servir son pays. Donc ça a été...
Quel est ce prix à payer ?
Le prix à payer, c'est que vous avez déjà beaucoup moins d'intimité dans votre vie et que vous êtes extrêmement exposé, que parfois pour votre famille qui ne s'attend pas forcément à cette exposition-là et qui, moi dans ma famille, il n'y a pas d'autres pères, aucune de mes autres sœurs ne fait de la politique, j'ai été la seule à suivre les traces de mon père. Et donc, moi, je leur ai interdit de lire les réseaux sociaux parce que c'était trop dur. Et dans la famille de mon mari aussi, qui viennent plutôt de petits villages dans le sud de la France, là aussi, il y a une espèce de saisissement par rapport à la violence dont une personnalité publique peut faire l'objet.
La violence en question hier, dans un discours, Éric Zemmour à la Convention du Front National a parlé de vous. Il a parlé
droite.
De beaucoup de choses, Convention de la droite, et notamment en attaquant vos tenues, en disant comment ne pas être ébloui par les tenues de notre ministre préféré, Sibeth Ndiaye, sommet de la distinction française. Vous parliez des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez senti, depuis que vous avez été nommé, une espèce d'acharnement, ou quelque chose qui serait de nature raciste? Et qu'est-ce que vous répondez à ce genre de propos?
Sibeth Ndiaye. Et je précise que c'était au cours d'un discours profondément xénophobe où Éric Zemmour a fustigé l'idéologie diversitaire, où il a comparé les djellabas aux uniformes des armées d'occupation et où il s'inquiétait de l'extermination de l'homme blanc hétérosexuel. C'est dans ce cadre-là qu'il a parlé de vous et c'était évidemment très ironique.
Il y a plusieurs choses dans ce que vous me demandez. D'abord, la première, est-ce que je fais l'objet d'un acharnement? Je ne sais pas si c'est de l'acharnement. Je constate simplement que dans notre pays, on a une partie de la population. Évidemment, les réseaux sociaux ne reflètent pas ce qu'est la France, loin de là. Et d'ailleurs, Dieu merci. Mais au fond, on voit
là,
bien
on
que...
Là, on ne parle pas des réseaux sociaux.
Oui, non, mais...
Il y a évidemment
quelque chose qui n'est pas digéré dans l'immigration. Quand on regarde aujourd'hui ce que sont les noms de famille des Français, et même au-delà des noms de famille, on voit bien que la France a été une terre d'immigration de très longue date et qu'on est sans doute tous des enfants d'immigrés à la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième génération. Mais il y a une immigration plus récente dans notre pays, celle qui se distingue par la couleur de sa peau et en partie aussi par la culture d'origine et la religion d'origine qui questionne notre pays, qui le questionne au point que vous avez des avatars de cette pensée xénophobe comme Éric Zemmour qui vont tenir des propos extrêmement désobligeants. À titre personnel, vous savez, le fait qu'on critique le fait que je m'habille en rouge me fait ni chaud ni froid. Je pense en revanche à toutes les femmes noires ou d'autres qui peuvent se sentir atteintes quand on critique leur manière de s'habiller parce qu'au fond, derrière, on vous dit que vous n'êtes pas une bonne personne, que vous n'avez pas de mérite à être là où vous vous situez. Et donc, c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à réagir systématiquement. Et j'en profite pour signaler à Éric Zemmour que la plupart du temps, quand je m'habille, j'ai des marques françaises parce que Arnaud Montebourg m'a convaincu de l'importance du Made in France. Je l'imite très mal, mais voilà, aujourd'hui, je porte un jean rouge 1083, des chaussures d'Annabelle Winship et un blouson d'Aïkou.
Et vous avez cité Cyrano pour lui répondre sur Twitter.
J'ai cité Cyrano parce que c'est l'une des premières pièces avec ma mère dont j'ai appris des vers quand j'étais au tout début de mon collège. Ma mère adorait Cyrano de Bergerac. Et alors moi, j'en avais, ça devait être vers 12 ou 13 ans, donc j'avais une compréhension de Cyrano de Bergerac qui était celle qu'on peut avoir adolescente. Mais j'en avais retenu la tirade du nez. Parce que moi j'ai le nez un peu épaté, donc ça m'avait beaucoup. Je m'étais dit, oh tiens, un blanc qui a un nez épaté, c'est intéressant. Et donc j'avais beaucoup aimé cette tirade du nez. Et puis j'aimais beaucoup l'idée qu'il ait un amour tellement fort pour Roxane qu'il préfère s'effacer devant celui qu'elle aimait, elle, vraiment. Mm-hmm. Et ça, ça m'avait fascinée, j'avais trouvé ça so romantique.
Mais malgré tout, Sylvia Tendiaï, comme je le disais dans le portrait, on vous a connu avant d'être voilà, sous la lumière. Et avant, vous n'aviez pas tout à fait le même look. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'en devenant ministre et en passant sous les projecteurs, vous avez eu besoin et envie de montrer aussi une autre part de vous. C'est vrai ou pas quand on dit ça ?
Alors, je pense que quand vous êtes un personnage public, vous devez du respect aux gens et donc vous êtes mieux habillé que quand vous êtes en jean et en basket à l'Élysée. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Après, j'ai toujours aimé les vêtements très colorés. J'ai toujours essayé d'adapter mes vêtements à mon embonpoint aussi. Voilà, c'est un salut à toutes les femmes qui sont rondes. On peut s'habiller en étant ronde, donc voilà.
Mais on ne parle pas de fringues, on ne parle pas seulement chiffon, Sibeth Ndiaye, parce que hier, à la convention de la droite, il était question de la théorie du grand remplacement, reprise et assumée par Marion Maréchal, reprise et assumée par Éric Zemmour. La question n'était pas celle de vos habits. La question qui était posée et que posait Éric Zemmour est la suivante, je le cite, « Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres ?» En l'occurrence, c'est de ça qu'il était question, beaucoup plus, je pense, que de la couleur
de
vos vêtements.
C'est de ça qu'il était question.
Et cette théorie du grand remplacement, qui était totalement marginale aujourd'hui, est beaucoup plus acceptée, diffuse dans le débat public. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Alors là, je suis pas complètement d'accord avec vous. Je pense que les gens qui portent cette théorie du grand remplacement, qui au fond actionnent toutes les peurs qui existent dans l'imaginaire français, toutes les peurs dont on parlait à l'instant sur l'immigration, sur le fait que finalement on ait le sentiment qu'il y ait un certain nombre de générations d'immigrés qui ont eu du mal à s'intégrer et qui n'ont pas réussi à s'intégrer, il y a une partie de nos compatriotes qui malheureusement pensent que c'est la faute des gens qui n'ont pas voulu s'intégrer, ce que je réfute, parce qu'on n'a pas non plus, dans la République, su intégrer les gens. On a beaucoup concentré les populations migrantes dans des endroits où il y avait déjà des difficultés sociales, et donc on a ajouté de la misère à la misère. Donc on a une part de responsabilité dans cette difficulté d'intégration. Moi, je crois très profondément aujourd'hui qu'on doit, de manière systématique, s'élever contre ces discours de haine. Parce qu'ils vont chercher ce qu'au fond de notre âme, on a de plus noir. Ils vont agiter ce qui nous fait peur au plus profond de nous-mêmes. Ils vont actionner les ressorts de nos incertitudes face aux transformations du monde qu'on a évoquées à l'instant. Mais... Ils vont aller chercher ça, et c'est ce qu'il y a de plus finalement difficile à extraire, parce que c'est pas forcément raisonné, en fait, cette
Alors, justement, ça n'est pas forcément raisonné. Quand Emmanuel Macron lance le débat sur l'immigration, alors que c'était pas forcément la première préoccupation des Français, quand on a l'impression qu'il est inquiet en parlant d'insécurité culturelle, est-ce qu'il faut mieux ne pas se saisir de ce sujet, quitte à y répondre de façon extrêmement concrète et de tordre le cou à un certain nombre de choses, ou est-ce que, comme vous dites, ça n'est que l'expression de ce qu'il y a de plus malsain chez les gens ? En clair, c'est quoi la ligne du gouvernement ? On va prendre toutes ces choses et on va y répondre point par point.
Sibeth Ndiaye.
Moi, je pense que dans la situation où on ne peut pas nier le fait que, pour une partie de nos compatriotes, le sujet de l'immigration est au mieux un sujet, si ce n'est un problème, voire une menace. Et donc, quand vous avez ça qui est dans la tête des gens, vous pouvez soit décider de mettre la tête dans
le sol. C'est mal, de dire c'est mal.
De dire c'est mal, il faut pas en discuter, faut pas en parler. Une partie de la gauche l'a fait et on a vu le résultat. Vous pouvez décider de surfer sur les peurs et d'aller actionner les choses les plus noires dans l'âme humaine. Et là, c'est ce qu'une partie de la droite a fait jusqu'à maintenant. Je ne crois pas non plus que ce soit la bonne solution. Moi, je crois qu'il faut qu'on réussisse dans notre pays à avoir un débat qui soit apaisé sur l'immigration.
Mais vous pensez que c'est possible quand on vient de parler justement de ce que peut devenir
des solutions non plus.
Mais c'est d'abord, avant de trouver des solutions, encore faut-il se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire ensemble. Encore faut-il définir ce que sont nos préférences collectives en matière d'immigration. Ça, c'est la base.
Bah, et la deuxième chose, sur le sujet,
bien
il y a
sûr,
un an sous la présidence d'Emmanuel Macron,
il faut qu'on puisse en faire
Colomb,
le bilan.
Ministre de l'Intérieur.
Il faut qu'on puisse en faire le bilan, voir ce qui a fonctionné et voir ce qui n'a pas fonctionné. Quand on est immigré en France, on a des droits. Mais on a aussi des devoirs. Et c'est dans cet équilibre-là qu'on doit aller regarder pour savoir si on est parfaitement à l'aise et si les préférences collectives dont on se dote dans notre société sont bien respectées. Et moi, vous savez, je préfère qu'on aille mettre les mains dans le cambouis pour qu'on aille exhumer les chiffres de qu'est-ce que c'est le regroupement familial, de qu'est-ce que c'est l'immigration légale en France, de qu'est-ce que c'est la demande d'asile, qu'on aille regarder les choses, qu'on mette à plat et qu'on se les dise en face et qu'ensuite on décide ensemble.
Elle était mal ficelée, la loi asile et immigration. Il manque des choses dedans.
Je pense que cette loi, c'est une loi qui est une loi qui était bonne dans son contenu parce qu'elle a donné des outils nouveaux. Il y a des outils qui ont eu du mal à se mettre en place, notamment le fait qu'on puisse aller accélérer pour les demandeurs d'asile les réponses. Nous, on avait un objectif de 6 mois. Aujourd'hui, on n'est pas à la maille puisqu'on est à un peu plus d'un an, très clairement. Et donc, il faut qu'on aille regarder ce qui a dysfonctionné et ce qui a bien fonctionné aussi, parce que
mais
je le rappelle.
Vous l'avez pas encore fait. Enfin, c'est-à-dire que
ça fait un an. Ça
vous
fait
avez
un an
décidé...
tout juste qu'elle
oui,
a été adoptée.
Mais pourquoi ne pas faire d'abord le bilan de cette loi avant de remettre le débat sur la table. C'est un peu paradoxal, on comprend pas très bien.
Le bilan de cette loi, il sera présenté en même temps que le débat au Parlement, qui aura lieu le 7 octobre prochain finalement, sera présenté. Et donc d'ores et déjà, les parlementaires de la majorité, mais bientôt l'ensemble des parlementaires, auront des données chiffrées sur ce qu'est aujourd'hui la nature de l'immigration en France. Je pense que c'est important qu'on puisse se mettre d'accord sur une base.
Et par ailleurs, Emmanuel Macron utilise cette forme du grand débat qui lui a en effet plutôt réussi pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Là, il remet le débat, enfin, il réorganise un débat autour de l'immigration. Sur quoi ce débat va déboucher? C'est la même question, on en parlera tout à l'heure sur les retraites. C'est-à-dire que c'est bien beau de débattre et de demander aux Français, là en l'occurrence aux parlementaires, leur avis, leur sentiment sur tel ou tel sujet. Mais concrètement, ça débouche sur quoi? Est-ce que, après avoir légiféré il y a un an sur l'asile et l'immigration, vous avez l'intention de légiférer encore ou de prendre des mesures nouvelles? Sur quoi ce débat va déboucher?
Eh bien, l'objectif de ce débat, c'est de déterminer ce que doit être la stratégie. C'est ce que le Premier ministre a eu l'occasion de dire dans un Conseil des ministres, de déterminer ce qu'est notre stratégie en matière migratoire. Et à partir de là, de regarder s'il y a des corrections qu'il faut apporter ou pas, et dans quel domaine. Donc, il faut regarder s'il y a des mesures réglementaires ou législatives, s'il y a des feux à pousser au niveau diplomatique européen sur ces questions-là. Mais les choses doivent être examinées sans tabou et en même temps en ayant bien la tête sur les épaules pour ne pas partir dans les fantasmes qui sont très souvent ceux qui entourent les questions migratoires.
Et on vient d'en citer un exemple.
Alors justement, pour vous parler à la fois de pas de tabou et pas aller dans les fantasmes, ça veut dire que vous ne vous interdisez rien, y compris en matière de regroupement familial, on est d'accord, si vous considérez qu'il faut un certain temps, on peut allonger les délais?
Écoutez, aujourd'hui, on est plutôt dans la maille de ce qui se fait au niveau européen. Il n'y a pas de spécificité française à proprement dire. Et ce que je veux rappeler quand même, c'est que sur les 90 000 personnes qui chaque année arrivent en France par le biais de ce qu'on appelle le regroupement familial, il y en a 50 000 qui rejoignent un conjoint français. Donc je pense qu'on peut se dire désormais qu'on empêche ça. D'accord. Je ne suis pas sûre que ce soit le cœur du problème.
Aide médicale d'État, CMU. À l'heure actuelle, quand on fait une demande d'asile, on passe du statut de l'AME, c'est-à-dire l'aide médicale d'État, à celui d'une couverture maladie universelle. C'est-à-dire qu'on a un panier de soins qui est extrêmement large. Est-ce qu'on peut envisager de rester sur l'AME quand on est demandeur d'asile, ce qui éviterait peut-être, je cite les réflexions d'un certain nombre de députés d'Emmanuel Macron, les gens qui viennent se faire soigner en France alors qu'ils pourraient très bien se faire soigner dans leur pays.
Alors, il faut mettre les choses là, en l'occurrence, à plat. Quand on est demandeur d'asile et qu'on arrive en France, on bénéficie d'une aide dont l'acronyme est la PUMA, et qui, en fait, est concrètement une forme de couverture maladie universelle, qui vous permet d'accéder à l'ensemble du panier de soins que n'importe qui aurait dans le cadre de votre demande d'asile. Quand vous êtes un étranger en situation irrégulière, vous êtes protégé par un autre système qui est alimenté par des fonds de l'État et non pas par la sécurité sociale, qui s'appelle l'aide médicale d'État. Cette aide médicale d'État, c'est un peu moins d'un milliard d'euros qui est dépensé chaque année, qui a un panier de soins qui est différent de celui
et qui est plus restreint que
celui des demandeurs d'asile. Plus. La question qui peut se poser légitimement, c'est est-ce qu'il y a des abus, est-ce qu'il y a des fraudes? Et donc ça, on est en train de l'examiner très précisément. C'est le ministère d'Agnès Buzyn, en lien avec le ministère de l'Intérieur, qui l'examine. On a des intuitions. Par exemple sur le fait que vous pouvez avoir des gens qui ont des visas de tourisme et qui vont prétexter qu'ils ont perdu leurs papiers pour pouvoir basculer dans le système de l'AME. Donc ça
concernerait a priori combien de personnes ?
Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire parce que très concrètement, les services de l'État sont en train de regarder précisément ce qu'il en est. Parce qu'on ne veut pas se lancer dans un débat non plus en ayant des fantasmes et des approximations. Donc il faut regarder posément les choses. Il faut qu'on ait aussi une discussion d'un point de vue sanitaire pour savoir ce qui est utile ou pas de mettre dans l'AME, y compris par contre comparaison avec d'autres pays européens. Et à partir de là, soit on considère que, et dans son principe et dans ses modalités, l'AME n'a pas vocation à changer, et c'est la décision que nous prendrons. Soit on considère que dans son principe, l'AME, c'est ma conviction très profonde, nous ne devons pas y mettre fin parce qu'elle permet de maintenir dans un état sanitaire satisfaisant, y compris eu égard à des maladies notamment type VIH ou hépatite, une population qui est fragile et qu'il nous faut accompagner malgré tout. Et on peut imaginer qu'il puisse y avoir des ajustements sur le panier de soins.
On parlait de la nostalgie tout à l'heure. Est-ce que vous avez la nostalgie du candidat Emmanuel Macron, celui qui applaudissait la chancelière Angela Merkel pour l'accueil d'un million et demi de réfugiés syriens en 2015 ?
Moi, je salue la très profonde cohérence entre le candidat Emmanuel Macron qui applaudissait la chancelière et le président de la République Emmanuel Macron, dont les mantras en matière d'asile sont à la fois l'humanité, donc il faut accueillir tous les gens qui ont droit légitimement à notre protection, il faut les accueillir dans de bonnes conditions. Moi, aujourd'hui, je suis pas fière qu'il y ait des camps à la porte de la chapelle. Donc, je considère que aujourd'hui, on ne fait pas les choses de manière correcte du point de vue de l'humanité, pas plus qu'on ne le fait de manière correcte du point de vue de l'efficacité et de la fermeté, parce qu'il y a aujourd'hui soit des gens qui viennent de pays dont on peut questionner la nature de la demande d'asile, je pense en particulier à des pays européens qui demandent leur adhésion par ailleurs à l'Union européenne, soit aujourd'hui quand vous avez seulement 40% de protection qui est accordée aux gens qui demandent l'asile, c'est bien qu'il y en a 60% qui en sont déboutés. Et ça n'est pas l'État français qui décide, c'est un organisme indépendant qui est l'OFPRA. Donc on a sans doute une voie d'immigration via l'asile qui est un peu dévoyée peut-être.
Encore une question sur le sujet et on passe à un autre chapitre.
Alors on voit quand même une stratégie derrière Emmanuel Macron. Je veux bien qu'il n'ait pas changé, que son discours soit toujours le même, mais on a bien compris que l'acte 2, c'était aussi dans la perspective de plusieurs échéances électorales importantes. Les municipales qui arrivent dans 6 mois, plein d'autres, et puis jusqu'en 2002 avec l'élection présidentielle. Est-ce que c'est le bon défi qu'a choisi Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est la bonne stratégie que de vouloir parler d'immigration pour réussir à parler aux classes populaires ? Est-ce qu'il ne fait pas une erreur stratégique là ?
Mais quand c'est vous regardez ce qui est aujourd'hui l'agenda du gouvernement et du Parlement, on va parler des retraites, on va parler de la dépendance, on parle en ce moment de la bioéthique et on parle de l'immigration. Mais pardon, mais l'ensemble de ces sujets sont des sujets qui touchent les classes moyennes. Aujourd'hui, ceux qui sont victimes des injustices de notre système de retraite, c'est la femme qui a une chance sur 5 de devoir travailler jusqu'à 67 ans.
On a l'impression que comme ses prédécesseurs, finalement, les résultats économiques mettent du temps à arriver. Et donc on fait un petit virage sécuritaire, un petit virage migratoire.
Non, honnêtement, d'abord, j'ai plutôt le sentiment que d'un point de vue économique, on n'a pas à rougir du bilan qui est le nôtre. Il y a des résultats qui commencent à se faire voir. On le voit sur les créations d'emplois, sur le chômage. On le voit sur le pouvoir d'achat des Français.
Et on va en parler justement.
Je crois qu'on n'a pas à en rougir complètement. Moi, je crois qu'il n'y a pas de sujet tabou dans ce pays. Parce que quand on a mis des tabous sur un certain nombre de sujets, on a vu le résultat.
La secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, est l'invitée de France Inter, du journal Le Monde et de France Info.
Question politique sur France Inter.
Vous parliez, Madame la Ministre, de pouvoir d'achat. Il en est question, évidemment, dans le budget, avec des baisses d'impôts qu'on commence à voir précisées, 5 milliards d'euros. La majorité des Français ne paye pas l'impôt sur le revenu. Ça ne concernera pas les Français les plus modestes. On parle d'un budget gilet jaune. Est-ce que l'expression est juste ?
Non, je crois pas que ce soit une expression qui soit juste. Bien sûr, le mouvement des gilets jaunes, est-ce que une partie de nos compatriotes nous ont dit, a influé sur ce budget, c'est une évidence. Mais ce budget, il est très cohérent avec ce qu'on a fait depuis le début du quinquennat. On a fait le choix dès le début du quinquennat de diminuer la pression fiscale et la pression de ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires sur les Français, les entreprises et les particuliers, c'est ce qu'on a fait. On a toujours considéré qu'il fallait faire attention à la dépense publique et qu'il fallait réduire la dépense publique et réduire le déficit public.
Mais là,
et
vous ce ne touchez budget, pas à la fonction fait. Publique.
Et la fonction publique, là, c'est pour le coup là où on a entendu ce que nous disaient les gilets jaunes, c'était qu'il y avait des transitions qu'on faisait dans les territoires qui étaient trop violentes, qui étaient trop rapides, et donc il fallait les faire de manière différente. Et donc aujourd'hui, le solde net de suppression d'emplois dans la fonction publique d'État sera de 10 000 emplois environ.
Vous êtes passé d'un objectif de 50 000 à 10 000, et je crois que dans le budget, le PLF prévoit 47 suppressions de postes simplement. Donc, est-ce à dire que vous renoncez
Non, parce que quand d'abord, il y avait des créations d'emplois qui étaient prévues, en particulier dans le domaine régalien, en particulier pour avoir plus de policiers sur le terrain dans des quartiers où le quotidien est difficile en matière de sécurité. On a fait aussi le choix que dans un certain nombre de secteurs, je pense à la justice, je pense aux urgences, puisque Agnès Buzyn a annoncé il n'y a pas très longtemps un plan qui permettra de réaliser des recrutements dans la fonction publique hospitalière. Donc on voit bien qu'on a fait des choix qui correspondent à des urgences telles que ressenties par nos concitoyens et qui sont des urgences véritables. Donc c'est un choix qu'on assume parfaitement d'accompagner une transition qui, de manière différente et qui se fait de manière sans doute moins brutale.
Il vaut mieux être critiqué par le MEDEF que par les Gilets jaunes ?
Eh bien, écoutez, je crois que quand on regarde...
Ça ne se manifeste pas pareil, quoi.
Ça ne se manifeste pas de la même manière.
Pardon, mais quand on regarde ce qu'on a réalisé depuis le début du quinquennat, on a une politique de l'offre qui est très solide. On a beaucoup, beaucoup diminué la pression fiscale sur les entreprises. Ouais. Elle continuera à diminuer d'ici la fin du quinquennat pour se situer en matière d'impôts.
13 milliards d'euros de baisse prévue.
Exactement. En matière d'impôts sur les sociétés, on va arriver à un étiage de la moyenne européenne.
25%.
Et donc, on a, exactement, 25%, c'est l'objectif qu'on a. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait parce que moi, je connais pas d'autres gens en France qui créent des emplois que les entreprises. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le maximum de nos concitoyens retrouvent de la dignité par le travail. Et donc, il faut que les entreprises aient les moyens de créer des emplois.
Alors, Nathalie Saint-Cricq.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, avec cette méthode? On voit la semaine dernière que vous avez été obligé de caler en extrême vitesse sur la fin des exonérations de cotisations sociales pour un certain nombre d'emplois à domicile. On voit que sur les retraites, ça va prendre plus de temps. On voit aujourd'hui que malgré le déblocage des 750 millions pour les urgences, il y a 9 Français sur 10 qui continuent à soutenir les urgentistes. Est-ce que ça veut dire, en gros, que vous n'avez pas envoyé un signal qui est que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on va dans la rue, on bloque et on obtient?
Non, je crois pas du tout, parce que vous avez pu le constater, il y a eu d'autres réformes qui ont été menées dans le quinquennat. Je pense aux ordonnances qui ont été menées pour modifier le marché du
travail.
C'était au
début, ça. Je pense à la réforme
qui a touché la SNCF pour préparer cette belle entreprise du ferroviaire à l'ouverture à la concurrence.
Mais ça touchait pas tout le monde. Les urgences, ça touche un peu tout le monde. Les retraites, ça touche un peu tout le monde.
Ça a touché des réformes. Ça a touché d'abord tous nos concitoyens, parce que pardon, hein, mais quand il y a eu les grèves à la SNCF, pour le coup, elles ont quand même touché tous nos concitoyens. Moi, ce que je crois très profondément, c'est que finalement, la leçon qu'on a retenue de la crise des gilets jaunes, c'est que nos compatriotes nous ont dit c'est formidable de réformer. Pour nous, c'est mieux de réformer avec nous. Et donc, c'est ce que nous avons souhaité faire en faisant en sorte que le dialogue avec les Français, que le dialogue avec les partenaires sociaux soit plus valorisé, soit plus fourni.
Mais est-ce que vous n'êtes pas en voie de chiraquisation? On a l'impression que la réforme devient très difficile maintenant à faire. Vous êtes coincé.
C'est pas tout en même temps.
Vous nous avez dit, vous ne réussirez pas à réaliser la réforme des lois bioéthiques. On est en plein dedans, on a un débat qui, je crois, est respectueux et apaisé.
Mais il y a 60% des Français qui sont favorables.
Et on est en train, progressivement, de réussir à le faire.
Je signale, pour ceux qui nous écoutent, que l'article 1er de la loi de bioéthique a été voté à l'Assemblée nationale.
Tout à fait, c'est celui consacré sur la PMA.
Sur la PMA.
Celui pour la PMA, et c'est une grande fierté, parce que je pense que c'est une avancée importante. Après, si je prends une par une les réformes dont on parle. La réforme des retraites, c'est une réforme, j'allais dire, c'est même pas une réforme. C'est un changement profond de système aussi important que celui qui a été réalisé quand on a créer le système des retraites au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
À la différence près qu'on ne sait pas quel est le système que vous allez proposer précisément.
Mais c'est très clair le système qu'on va proposer. On a des principes qui partent du constat actuel. Aujourd'hui, personne n'a confiance dans le système des retraites. Vous demandez à quelqu'un qui a 25 ans, est-ce que tu penses demain que tu auras une retraite ? Les gens ont plutôt tendance à penser que non. Vous me demandez à moi aujourd'hui, à bientôt 40 ans, si je sais à quel âge je partirai à la retraite, je suis incapable de vous le dire. Donc on voit bien qu'il y a une incertitude profonde, il y a aussi une forme d'injustice dans le système, parce que vous avez des gens qui ont des carrières hachées, des gens qui n'arrivent pas à avoir des retraites à taux plein au moment maximum où ils doivent partir. Vous avez des gens qui exercent le même type de métier et qui n'ont pas la même retraite. Vous êtes conducteur à la RATP à Paris, vous conduisez le même bus ou le même métro que quelqu'un qui est conducteur dans une grande ville de province, vous n'avez pas la même retraite.
Mais je reviens sur ce que je disais initialement.
Vous ne pouvez pas avoir confiance dans le système, mais c'est important de comprendre pourquoi on veut faire les choses.
Oui, mais
une fois qu'on se dit pourquoi on veut faire les choses, la question qui va se poser devant nous, elle est en gros, depuis 18 mois ou presque 2 ans, on a mené un certain nombre de concertations préliminaires avec Jean-Paul Delevoye qui était haut commissaire. Il a produit un rapport. Ce rapport, c'est lui qui l'endosse et ça n'est pas le gouvernement à ce stade. Sur la base de ce rapport, on va discuter avec les organisations syndicales et avec les Français. Et on va discuter dans deux dimensions. La première, que je qualifierais de transversale, c'est savoir à quoi va ressembler le système demain. Nous, on a posé des principes plus justes, plus équitables, plus transparents, par points et par répartition. C'est des principes intangibles. Maintenant, il faut discuter de comment ça se met en œuvre.
Et pour quels vont être les droits familiaux.
Non, il ne s'agit pas de, savoir. Mais aujourd'hui, il y a des perdants dans le système. Aujourd'hui, quand vous êtes une femme et que vous avez une chance sur cinq de finir à 67 ans avec une toute petite retraite, ouais, vous êtes un gros perdant du système. Moi, ce que je veux, c'est un système qui soit plus juste pour les plus petits. Voilà.
Non, mais et d'accord, donc, pour l'air stress, mais donc, souvenons-nous quand même qu'Emmanuel Macron s'est présenté pour gagner l'élection présidentielle, et ça a très bien fonctionné, comme un grand réformateur. Les Français qui ont voté pour lui ont eu le sentiment de voter pour quelqu'un qui, très vite, allait changer beaucoup de choses. Ça a fonctionné sur les 12 premières années, sur les 12 premiers mois, et c'est la raison pour laquelle là, voilà, Solène Deroyer et moi, on dit, voilà, est-ce qu'il n'est pas en voie de chiracisation? Parce qu'on se rend compte quand même qu'il a compris que sans en passer par les autres, sans en passer par les Français, sans en passer par les corps intermédiaires, on n'avançait pas.
Donc, bien sûr, mais quand vous dites qu'il faut être plus dans le dialogue, très bien, c'est ce que nous faisons. Est-ce que pour autant ça va nous empêcher d'agir ? Non, parce que la réforme des retraites, elle va être négociée avec les organisations syndicales, débattue avec les Français, et d'ici l'été prochain, nous présenterons ce que sera le projet de loi qui déploiera le nouveau système. Et nous dirons comment on opère les transitions, quel est le chemin qu'on emprunte pour un certain nombre de catégories professionnelles pour lesquelles c'est plus compliqué. Tout cela, nous l'expliquerons, tout cela, nous le discuterons et nous le ferons.
Nathalie Saint-Cricq.
Je voudrais juste reprendre une seconde ce que disait Ali tout à l'heure. Dans une réforme, il y a forcément des gagnants et des perdants, même si c'est un peu simplificateur de dire ça. Est-ce que on assume, est-ce que vous assumez la philosophie que de manière à rendre plus juste la réforme et le système, c'est-à-dire vous parlez des femmes, des carrières hachées, des petites retraites, qu'un certain nombre de cadres ou de gens qui rentrent sur le marché du travail beaucoup plus tard soient d'une certaine manière les perdants de cette réforme?
Pour parler de gagnants et de perdants, c'est comme si vous considériez que cette réforme s'appliquait du jour au lendemain pour l'ensemble des Français. D'abord, aucun retraité actuel
ça on a compris.
Oui, mais il vaut mieux toujours le redire, parce que je pense que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Aucun retraité actuel n'est touché. Aucun
ça, retraité... c'est votre travail.
Ça, c'est mon travail.
On l'a compris.
Ceux qui seront impactés par le système sont des gens qui sont plutôt proches de la retraite aujourd'hui, de l'ordre de 5 à 10 ans. Je ne sais pas, il faudra justement en discuter. Tous les droits qu'ils ont acquis ne seront pas remis en cause.
Mais la philosophie
la philosophie générale plus tard, c'est de faire en sorte que des gens qui ont eu des carrières heurtées, qui ont été plutôt en butte à du travail à temps partiel, voient leur retraite revalorisée pour qu'ils aient une retraite de meilleure qualité. Et c'est aussi de faire en sorte qu'on ait ce qu'on appelle un minimum contributif, c'est l'engagement du président de la République, c'est-à-dire la retraite minimum que vous puissiez avoir, qui soit rehaussée au niveau de 1 000 euros. Et donc, ces engagements-là, c'est pour faire en sorte que dans le futur, compte tenu des carrières que des gens qui aujourd'hui rentrent sur le marché du travail auront d'ici une quarantaine d'années, qu'on puisse avoir un système qui soit plus juste. C'est ça qui est notre objectif aujourd'hui.
Et puisque vous parlez du futur, de l'avenir, l'avenir. Sibeth Ndiaye, il est directement concerné par la lutte contre le réchauffement climatique. Cette semaine a été marquée par un sommet sur le climat, par Greta Thunberg avant-hier à la tête d'une marée humaine à Montréal. 500 000 personnes dans les rues, c'est du jamais vu dans cette ville du Québec. Pourquoi les critiques aussi virulentes du président de la République contre Greta Thunberg?
D'abord, moi, je considère pas que ces critiques ont été virulentes, si tant est qu'on puisse vraiment parler de critiques. Moi, ma conviction, c'est que Greta Thunberg, au fond, elle incarne ce qui est une angoisse profonde des jeunes générations aujourd'hui. Et en fait, c'est assez légitime que ceux qui sont aujourd'hui des ados nous tympanisent, nous adultes et nous responsables politiques, pour savoir ce qu'on compte faire. Après, on n'est pas du tout dans le même rôle. Elle est dans un rôle d'interpellation, par exemple. Tandis que nous, on est dans un rôle d'action. Et donc, nous, on doit concilier pour de vrai, dans la vraie vie, des agriculteurs qui vous disent qu'ils ont encore besoin de pesticides quand on leur dit que dans le même temps, il faudrait penser à les abandonner. On a fixé une date pour diminuer la quantité de pesticides dans notre agriculture. On est, nous, dans l'action quand on doit expliquer aux gens qu'il faut consigner les bouteilles en plastique et quand d'autres nous répondent qu'en fait, ça va être trop compliqué et trop dur. Donc, en fait, c'est important d'avoir des lanceurs d'alerte, des gens qui vous interpellent et qui, en quelque sorte, vous mettent le nez dans le caca. Et en même temps, nous, on doit être dans le faire. On ne peut pas être que dans le dire.
Mais pourquoi cette virulence d'Emmanuel Macron?
Est-ce que c'était le rôle d'Emmanuel Macron de la tancer et de lui dire « mais elle ferait mieux d'aller manifester en Pologne ».
Je crois pas du tout que le président de la République ait été dans un état d'esprit pour tancer Greta Thunberg. En revanche, ce qu'il a voulu dire à ce moment-là, c'est que ceux qui étaient les plus rétifs aux actions à mener pour la transition climatique et pour la lutte contre le changement climatique se trouvaient pas forcément en France et que au contraire on avait besoin d'aide dans les opinions publiques pour aller convaincre des dirigeants européens.
Mais
très
en disant ça, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron disait ton rôle, Greta, c'est sympa mais c'est un peu facile. Moi, c'est
non,
compliqué.
Je crois pas du tout. Je crois qu'il s'agit pas du tout dans la tête du président de la République de finalement pousser de côté ce qui est en train de réaliser Greta Thunberg. Il s'agit simplement de dire qu'effectivement, on est dans deux rôles différents, un rôle d'interpellation, un rôle d'action.
Il reste deux minutes, Nathalie Saint-Cricq.
Est-ce que justement, juste une dernière question sur le climat, est-ce que ça ne serait pas cohérent de dire aux gens que finalement, le nucléaire, ce n'est pas si mal que ça et qu'il faut mieux le garder encore un certain temps, puisque le réchauffement et l'angoisse première des gens, c'est effectivement les énergies fossiles et un certain retard sur les énergies renouvelables.
Aujourd'hui, on a un objectif effectivement de diminuer notre dépendance au carbone, donc de décarboner notre économie. Le nucléaire, pour ça, fait que la France a une force particulière par rapport
et
à d'autres.
Mais
le nucléaire pose d'autres questions, la question du traitement des déchets. Et donc, on doit agir en ayant en tête le court terme, le moyen terme et le long terme. À court terme, c'est une force pour nous d'avoir le nucléaire. À long terme, nous devons gérer nos déchets. Et donc, pour gérer nos déchets, il faut qu'on soit moins dépendant. C'est ce que nous faisons en diminuant la part du nucléaire dans le mix énergétique français.
Question politique.
Voilà, pour
question
terminer,
de Karine Bécard.
Les municipales, vous serez candidate quelque part ou pas forcément tête de liste, mais sur une liste, est-ce que vous avez envie?
J'envisage pas d'être candidate. Non.
Pourquoi?
Parce que, d'abord, je pense qu'on a beaucoup de talents qui sont parfaitement capables de le faire. Et donc, je pense que c'est un moment où on fait émerger des nouveaux talents. Donc, moi, je me sens pas particulièrement.
Bah c'est vous, au contraire.
Justement, les nouveaux talents, il y a un certain nombre de nouveaux talents, La République En Marche, qui adoreraient être investis et qui trouvent que vous avez plutôt tendance à investir les vieux talents, surtout quand ils sont de droite. Et qu'est-ce que vous répondez à ce blues du député En Marche qui aurait voulu être maire?
Votre sourire dit que alors, vous êtes totalement d'accord avec Nathalie Saint-Cricq.
Non, pas du tout. Mon sourire dit simplement que je suis bien consciente qu'on est un mouvement jeune, qu'on a beaucoup d'appétit. Moi, je crois très profondément que c'est important de s'implanter dans les territoires parce qu'on voit bien que la politique qui est menée au niveau national, elle a besoin d'avoir une résonance dans les territoires. Et que s'il y a des choses dans ce qu'on met en œuvre au niveau national qui ne sont pas déclinées localement, il y a peu de chances que les Français aient le sentiment que nous agissons au quotidien. Donc c'est important d'être implanté dans les territoires. Il y a des endroits où on a des opportunités pour que ce soit des personnalités marcheuses qui soient leaders. Il y a des endroits où on a moins d'opportunités. Il faut savoir être malin. Et parfois, on peut peser au sein de nouvelles majorités ou au sein de majorités existantes. Et donc, pour pouvoir porter nos idées, moi, le plus important, c'est que les idées d'En Marche se diffusent le plus possible au niveau des territoires.
Une poignée de secondes, Solène Doroyer.
Oui, ce week-end, votre allié le Modem s'est réuni à Guidel. Et dans Le Parisien, le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, appelle à gouverner sans trop de certitudes et sans petites phrases. Est-ce que c'est un avertissement ?
Non, je pense que je partage avec Marc Fesneau le même ministère, puisqu'on est dans les mêmes lieux physiquement. Et je pense que c'est quelqu'un qui, à travers cette phrase-là, nous dit que nous avons intérêt à gouverner unis, à marcher ensemble, plutôt que parfois à nous disperser, comme certains en ont des fois la tentation.
Et ce sera le mot de la fin, le cortège qui emmène le cercueil de Jacques Chirac aux Invalides est en route et c'est évidemment une actualité que vous pourrez suivre sur l'antenne de France Inter et sur France Info. Merci Sibeth Ndiaye d'avoir été notre invitée. Merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de Question Paul. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne fin de week-end.